Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'info. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui. Choléra en RDC, une épidémie hors de contrôle avec plus de 38 000 cas suspects et près de 950 décès depuis janvier. La propagation du choléra atteint des zones non endémiques, poussant OCHA à appeler à une réponse urgente avant la saison des pluies. Nord Kivu, les cessez-le-feu vacillent sous les tirs. Malgré l'accord signé à Doha, les affrontements se poursuivent dans les territoires de Massissi et Walikale, tandis que le rebelle renforce leur emprise sur Rutshuru. Invité du journal, soixantaine de l'INPP, bilan et perspective, Longin Loutété, directeur technique national intérimaire de l'INPP, revient sur le moment fort de la célébration à Kisangani et les défis de la formation professionnelle en RDC. À la présentation de ce journal, Gisèle Cage, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec une alerte sanitaire préoccupante. Le choléra continue de se propager à un rythme inquiétant en République démocratique du Congo. Depuis janvier, plus de 38 000 cas suspects et près de 950 décès ont été enregistrés, dépassant déjà le bilan de toute l'année précédente. L'épidémie touche désormais 17 de 26 provinces, y compris des zones habituellement épargnées comme Kinshasa, Maïndombe et l'Équateur, ce qui témoigne de la gravité de la situation. Face à cette propagation inhabituelle, le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA lance un appel pressant à renforcer la réponse, surtout à l'approche de la saison des pluies prévue entre septembre et décembre qui pourrait aggraver la crise. Jean-Gandou Kabongo nous en dit plus.
Alors que le gouvernement, les Nations Unies et les organisations humanitaires intensifient leurs interventions sanitaires, indique OCHA, cité par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, d'importants défis subsistent. Les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène restent gravement sous-financés. Afin de freiner la propagation du choléra, une campagne de vaccination est en cours depuis début juillet et vise à atteindre 3 millions de personnes dans 11 zones de santé reparties dans 4 provinces d'ici la fin du mois, voire la fin de la semaine prochaine. Pour y faire face, 750 000 dollars américains supplémentaires ont été alloués par le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies pour soutenir les actions préventives contre le choléra à Kinshasa, la capitale, où on signale une augmentation significative des cas, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Depuis mi-avril, Kinshasa a enregistré plus de 1500 cas suspects, dont 120 décès. Cette nouvelle allocation est la troisième du genre en République démocratique du Congo cette année, après celle accordée au Nord Kivu en mars et au Maniema à la Tchopo Amé. Pour terminer, notons que les humanitaires renseignent qu'ils ont besoin urgemment d'un financement immédiat pour renforcer les réponses sanitaires et combler les lacunes critiques dans les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène.
À Kinshasa, des signes encourageants dans la lutte contre le choléra à Maluku. Depuis mai, l'hôpital général de référence de Maluku a enregistré 95 cas, dont 13 décès, selon le docteur Apollinaire Bessanga, médecin directeur de l'établissement. Il précise que la majorité des patients proviennent des îles environnantes, ce qui soulève les inquiétudes quant à la surveillance sanitaire aux points d'entrée fluviaux. Le docteur Bessanga appelle ainsi à renforcer le contrôle sanitaire sur le voie d'accès par le fleuve pour contenir la propagation de la maladie. Il s'est exprimé au téléphone de Rachel Kalombe, évoquant les efforts en cours et les défis persistants dans la riposte.
Nous avons reçu le premier cas le 22 mai. On a enregistré déjà 95 cas. Il y a 5 malades dont l'âge est inférieur à 4 ans. Il y a déjà 72 malades qui sont sortis guéris et 13 décès. Parmi les 13, il y a eu 4 décès communautaires. On a reçu deux fois les intrants et les médicaments qui sont venus de la DPS et l'hôpital les prend en charge. Par rapport à la situation géographique de notre réseau de santé, nous sommes à la porte d'entrée de la ville. Et parmi tous nos malades, il y a pratiquement 70% qui viennent des îles. Ça veut dire qu'ils sont en train de consommer l'eau du fleuve. Et nous sommes en train de soutenir, de bousculer nos autorités pour que prochainement qu'on puisse placer une barrière au niveau d'un port qu'on appelle Bende Bende, de façon que tous les bateaux qui viennent pour entrer au niveau de centre-ville, qu'il y ait un contrôle, un checking, pour qu'on puisse arrêter tous les cas qui sont suspects. Dans ces bateaux-là, on a constaté aussi quelques malades qui présentent les symptômes de choléra.
Le docteur Bessanga plaide également pour une meilleure prise en charge alimentaire des agents de santé mobilisés dans la lutte contre le choléra dans la zone de Maluku. Santé encore au Kasaï oriental, un pas important dans la lutte contre la maladie du sommeil. Le laboratoire subnational des Dipumba a ouvert ses portes mardi dernier à Mbujimayi. Ce centre est désormais opérationnel pour l'analyse des échantillons des trypanosomiases humaines africaines, une infection parasitaire transmise par la piqûre de la mouche tété. Depuis le début de l'année, 12 cas ont été enregistrés dans les zones de santé des Bibanga, Mukumbi et Kalambayi, dont un décès. Les précisions avec Esther Ndalafina.
Le laboratoire subnational de Dipumba est le fruit d'un partenariat entre l'Institut médical tropical d'Anvers, le gouvernement congolais à travers l'Institut national de recherche biomédicale INRB et le programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. D'après le médecin coordonnateur provincial du programme de lutte contre la trypanosomiase, ce laboratoire attend donc diagnostiquer plus de 200 échantillons par mois provenant des provinces de l'Omami et du Sankoro.
Nous avons besoin d'échantillons. On est de pouvoir examiner au-delà des 200 échantillons.
Docteur Jean-Jacques Moyembe, directeur de l'INRB, rassure la population.
Ma joie est d'autant plus grande que l'INRB a été impliqué dans le processus de construction de ce nouveau laboratoire jusqu'à sa complète réalisation. L'INRB a assuré la formation des techniciens de laboratoire au nombre de 3.
Pour Docteur Augustin Kayembe, gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, le diagnostic des trypanosomiases seront désormais rapide.
Ce laboratoire offrira des diagnostics plus rapides et plus précis, permettant une prise en charge plus efficace des patients.
Signalons qu'avant l'ouverture à Mbujimayi de ce laboratoire subnational de Dipumba, les échantillons de trypanosomiase étaient expédiés à l'INRB Kinshasa pour être diagnostiqués. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Chapitre sécuritaire à présent, la tension reste vive au Nord Kivu, malgré l'accord de principe signé à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle censé instaurer un cessez-le-feu. Les violences se poursuivent sur le terrain. Des affrontements sont signalés dans les territoires de Masisi et Walikale, tandis que dans le territoire voisin de Rutshuru, les rebelles continuent de renforcer leur présence, faisant craindre une nouvelle escalade. Ronelin Tibonera nous propose un tour d'horizon de la situation.
D'abord, dans les territoires de Rutshuru, des nouveaux combats ont éclaté ces samedis à Kinyumba, village situé à 5 km de la cité de Nyabiondo, dans le secteur Osobanyungu. Ils opposent la FC-123 au Wazalendo de l'APCLS de Janvier Karahiri. De sources à Nyabiondo indiquent que les rebelles ont ouvert le feu sur les positions de Wazalendo à Kinyumba et sur plusieurs autres fronts. C'est notamment à Burora, Bukombo, Showa et Shangara, village environnant de Kinyumba, jadis occupé par l'APCLS. La société civile locale parle d'attaques à répétition qui sont devenues le vécu quotidien des habitants du secteur Osobanyungu. La population est contrainte de se mettre à l'abri dans des villages supposés sécurisés. La situation demeure involatile et imprévisible dans cette région. Situation similaire dans les territoires de Walikale, voisins, où diverses attaques sporadiques perpétrées par les rebelles sont aussi rapportées dans le groupement de Kisimba. Alors que dans le groupement de Bambo et Tongo, en territoire de Rutshuru, les populations assistent à un mouvement de renfort des effectifs en hommes et munitions du côté de la rébellion depuis la soirée d'hier vendredi. C'est à l'expiration le 25 juillet de l'ultimatum lancé envers le FDLR et les Wazalendo pour déposer les armes et se rendre. Des sources locales confirment les détonations d'armes lourdes qui résonnent cet avant-midi au niveau de villages Bitoura, Mouti et Gbadolité, c'est à l'ouest de l'agglomération de Bambo.
Au sud Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile tire la sonnette d'alarme face à la montée de l'insécurité dans la ville de Bukavu. Selon son porte-parole, Wilfried Abamungu, plusieurs quartiers sont particulièrement touchés, notamment Mulumbula, en particulier l'avenue Itoudou, Farmakina, ainsi que Chiriri, dans la commune de Bagira. Entre le 21 et le 23 juillet 2025, cette structure a recensé une dizaine de maisons visitées, ainsi que de nombreux cas de violence et de braquage. Une situation qui, selon elle, s'explique par l'absence quasi totale des forces de l'ordre sur le terrain. Wilfried Abamungo formule ses recommandations au micro de Ronelin Tibonera.
Nous plaidons pour le renforcement des services de sécurité et la mise en place de patrouilles régulières dans les quartiers touchés, assurant ainsi une visibilité et une réponse rapide aux incidents. La création de comités de sécurité des quartiers serait aussi importante pour encourager les résidents à former ces comités-là afin de surveiller et rapporter les activités suspectes, créer une ligne d'urgence dédiée pour signaler rapidement les incidents de sécurité, à renforcer ainsi la réactivité des forces serait nécessaire. Nous appelons les nouvelles autorités à interdire la fabrication, la vente et la consommation de boissons fortement alcoolisées.
Par ailleurs, ce samedi, les autorités militaires locales ont mené une opération de bouclage dans les avenues situées au-delà de l'hôpital général de Bukavu dans le quartier Nkafu. Selon nos sources, une dizaine de jeunes ont été interpellés au cours de cette opération. Clôturant ce chapitre sécuritaire par l'Ituri, où la coopération militaire se renforce, l'armée ougandaise a intensifié sa présence aux côtés des FARDC dans le cadre des opérations conjointes contre le groupe armé actif dans la région. C'est vendredi après-midi, un convoi militaire ougandais est entré dans les territoires de Mahagi, marquant une nouvelle étape dans cette collaboration sécuritaire. Ce déploiement intervient dans un contexte tendu après une série d'attaques meurtrières survenues ces derniers jours dans les territoires de Djougou. Isaac Remoyope fait le point sur cette évolution.
Le convoi, composé de 21 véhicules transportant des troupes ougandaises, a franchi la frontière via les postes douaniers de Mahagi, à plus de 160 km au nord de Bunia. Après leur entrée, les militaires ont progressé jusqu'à Fataki dans les territoires de Djougou. La destination finale de ces soldats reste inconnue pour l'instant. Selon des sources sécuritaires, ce déploiement vise à appuyer les FARDC dans la traque des groupes armés responsables des récentes attaques dans les localités de Lopa et Nizi. Sur les réseaux X, le chef d'état-major de l'armée ougandaise a fermement condamner les exactions de la milice Codeco dans cette zone, leur donnant un ultimatum de 4 jours pour déposer les armes. Certains acteurs politiques salient cette collaboration militaire qui, selon eux, doit s'étendre à tous les groupes armés qui refusent de s'inscrire dans le processus de paix, comme les groupes Zaïre et la CRP de Thomas Lubanga. Jean-Pierre Bikilisende, député de Djougou.
Dernièrement, il y a eu signature d'un mémorandum à Kinshasa au mois de juin pour traquer tous les groupes armés. Ce n'est pas que Codeco seul qui doit être visé, c'est tous les groupes armés qui doivent être désarmés et que l'État doit maintenant asseoir son autorité.
Certains acteurs de la société civile redoutent que l'intervention armée ne compromette les acquis de l'accord de paix d'Aroudé, un accord dans lequel ces groupes s'étaient engagés à cesser les hostilités et à adhérer au programme de désarmement. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le Tanganyika, un retour progressif à la normale s'amorce. Les populations qui avaient fui leur village dans le territoire de Moba à la suite des incursions des miliciens Bakatakatonga et Toa commencent peu à peu à regagner leur localité d'origine. Selon des sources locales, ce retour est rendu possible grâce à un rétablissement progressif de la paix favorisé par la présence renforcée des FARDC dans la zone. Pour les Munanga, nous en dit plus.
Au mois de mars et avril dernier, les habitants de plusieurs villages situés dans les groupements Kasenganganye, Kamena et Mupanga à l'ouest du territoire de Moba, à la suite des attaques des miliciens Bakatakatanga et des Toa, commencent à regagner leur milieu d'origine, signalent certaines sources à Moba. Quelques retournés s'expriment. Il y avait une grande insécurité. Le gouvernement nous a aidés en nous envoyant des militaires. Et depuis qu'ils sont ici, nous constatons que la situation sécuritaire s'est améliorée. Les gens retournent petit à petit. Ici, c'est le village Kisala Kabobwe. Il y avait une grande désolation lorsque les Toa nous ont attaqués. Nous avions tous fui en brousse. Ils ont volé tous nos biens. Nous sommes allés voir les militaires des FARDC à Kasenganganye. Ils sont venus et nous ont demandé de retourner. Ils nous ont promis de nous sécuriser. C'est ainsi qu'il y a retour de la paix dans le village. Nous demandons au gouvernement de nous assister avec les cash, les vivres et les non-vivres. Rappelons que les incursions de ces miliciens dans les villages ont été à la base des incendies de plusieurs maisons et du pillage des biens des villageois. Cette situation a provoqué des déplacements massifs des populations. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Retour en Ituri où la crise humanitaire s'intensifie. Plus de 20 000 nouveaux déplacés ont rejoint ces derniers jours des sites de fortune à Bunia et dans d'autres localités environnantes. Ces chiffres alarmants ont été communiqués jeudi par l'association l'intention de déplacer les victimes de guerre de l'Ituri lors d'un point de presse tenu à Bunia. Ces mouvements massifs sont directement liés à la recrudescence de l'insécurité dans le territoire de Djougou, marqué par l'activisme persistant de groupes armés et les opérations militaires en cours de FARDC. Jean-Claude Loki Dile nous apporte les détails.
Ces déplacés, venus notamment de Nizi, Lopa et Central-sur-le-Niama, arrivent dans des conditions très précaires. Les anciens sites sont déjà saturés, les abris délabrés et les installations hygiéniques quasiment inexistantes. Olivier Carba, le chargé de communication de l'association des déplacés et victimes de guerre de l'Ituri.
Tous les sites des déplacés actuellement sont débordés. Les nouveaux venus ne savent où passer leur nuit car il n'y a plus d'espace pour construire des abris. Nous avons beaucoup de défis à relever dans des sites de déplacés, tels que manque de toilettes, parce que les toilettes là sont bouchées, manque de vivres, manque d'abris et les soins de santé.
À Bunia, le maire signale que plus de 2400 déplacés supplémentaires vivent chez des familles d'accueil, elles-mêmes en situation de grande précarité. Un appel pressant est lancé aux autorités et partenaires humanitaires pour une réponse rapide à cette crise humanitaire grandissante. Olivier Carba.
Si les ONG et le gouvernement n'interviennent pas, sans vous mentir, nous risquons de vivre d'autres conséquences néfastes comme les maladies, les cas de mort suite à ces débordements.
D'autres déplacés vivant sur des sites qui n'ont pu atteindre Bunia à cause de diverses raisons passent la nuit en brousse, craignant des attaques des hommes armés. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Une attaque sanglante ce samedi matin à Zaindan, dans le sud de l'Iran. Les autorités iraniennes parlent d'une attaque terroriste. Selon le pouvoir judiciaire, des hommes armés non identifiés ont pris pour cible le centre judiciaire de la ville. Bilan provisoire, 5 morts et 13 blessés côté civil. L'agence de presse officielle IRENA confirme également la neutralisation de 3 assaillants. Zaindan, capitale du Sistan-Baloutchistan, une région frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan est régulièrement secouée par des violences. Ces nouvel épisodes viennent raviver les tensions dans une zone déjà instable.
L'invité.
Clôture en beauté ce vendredi à Kisangani, des activités marquant le 61 ans d'existence de l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-gouverneur de province, du directeur provincial Piero Luango, ainsi que du directeur technique national intérimaire Lojan Loutete. Pour revenir sur les moments forts de cette célébration et dresser le bilan de plus de 6 décennies d'engagement en faveur de la formation professionnelle en RDC, nous recevons aujourd'hui Lojan Loutete, directeur technique national intérimaire de l'INPP. Il est au micro de Jacques Moukonkolé.
Monsieur le directeur technique intérimaire de l'INPP, bonjour.
Bonjour.
On vient de clôturer par le gouverneur de province par intérim le mois dédié à l'INPP. Globalement, que peut-on retenir des 61 ans d'existence de cet établissement public?
Merci, monsieur les journalistes, pour la question. Globalement, je peux retenir que l'INPP a fait savoir à la face du monde qu'il a déjà plus de 60 ans et qu'il a œuvré pour la République. Il a formé et va continuer à former. Si en moyenne on a formé 100 personnes ou 200 personnes par année, il faut voir ce que ça donne déjà. Donc globalement, je peux dire que nous avons montré à la face du monde que l'INPP fait beaucoup de choses et jusque-là continue encore à faire beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous faites?
L'INPP assure la qualification professionnelle de la population active, à inférer des compétences pour exercer un métier complet et des compétences pour l'amélioration des compétences, par exemple pour les travailleurs des entreprises. Donc l'INPP, dans sa vocation, c'est pour renforcer les capacités des gens qui travaillent. Il y a toujours un écart entre ce que nous faisons et ce que nous devons faire, et l'INPP est là, c'est pour, du moins, compléter ces informations, compléter cette formation aux travailleurs qui en manquent. Et encore, pour les sans-emploi ou les demandeurs d'emploi, c'est pour donner un métier complet. Par exemple, on forme un mécanicien complet, on forme un commis cuisinier, quelqu'un qui n'avait rien, mais qui a tout un métier à ces mains.
Monsieur le directeur, beaucoup d'activités ont été organisées pendant ce mois de juillet qui a été dédié à l'INPP. C'était pour la visibilité certainement de votre établissement. Pensez-vous, à travers ces activités, avoir lancé un message à la population? Si oui, lequel?
Mais nécessairement. Donc, ce n'est pas une simple visibilité, mais c'est une visibilité approfondie. Parce que les gens peut-être voient seulement l'INPP, mais vous avez vu tout à l'heure comment est-ce qu'on est tenté d'inciter au niveau de l'agroalimentaire, comment est-ce que les mamans, les jeunes filles qui peuvent venir avoir la formation, et comment fabriquer des jus. Au lieu que nous ayons des mendiants en cours de route, en peu de temps, en 4 mois, on sait fabriquer ces jus et on peut les vendre pour assurer la survie également des enfants et pourquoi pas de vous-même également. Donc, c'est un peu ça, cette visibilité-là. Et c'est parce que j'ai parlé un peu de l'agroalimentaire, mais du moins, vous savez que l'INPP est en train de prendre quand même un essor. Par exemple, ici, au niveau de la province d'Achopo, nous sommes ici dans un bâtiment réhabilité. 2 mois après demain, nous aurons également un autre bâtiment. C'est également un message pour dire que nous avons des centres pour accueillir un grand nombre de gens et qui n'aient pas peur.
À Kisangani, l'INPP est en train de construire un grand centre moderne. Quel impact cela pourrait-il avoir sur l'offre de formation professionnelle?
L'impact est que quand on forme beaucoup de gens, on assure le développement du pays. Où les former, c'est à l'INPP. Parce que nous aurons des espaces pour accueillir un grand nombre pour former la population. Et quand on forme la population, cela veut dire qu'on assure le développement de la province et de la nation. Regardez là où nous sommes, c'est déjà grand, mais ce que nous construisons également est plus grand que ça. Cela veut dire que nous serons capables d'accueillir un grand nombre pour former, et quand on forme, c'est pour donner l'intelligence, c'est pour donner la qualification professionnelle, et c'est pour donner du travail également aux gens. Le fait de beaucoup construire, nous allons beaucoup former, et c'est pour assurer notre développement.
Une dernière question, monsieur le directeur. L'actualité dans le monde aujourd'hui, c'est la protection climatique. Est-ce que cet aspect des choses face à la dégradation de la forêt, est-ce que l'INPP tient compte de cet aspect dans son offre de formation?
Exactement. Il y a un travail que nous faisons, mais nous développons également au niveau de l'INPP. C'est l'arrivée des métiers, que nous parlons des métiers verts. À côté de moi, ici, vous avez vu, on a fabriqué des plateaux sur base de sable et des déchets plastiques. Donc, c'est pour vous dire que l'INPP est en cours de pouvoir suivre ces phénomènes-là. Et je vous dis que nous avons déjà, au niveau de l'INPP, nous avons déjà prévalidé au moins 72 ou 75 filières qui vont dans le sens des métiers verts. Donc c'est pour dire que cet aspect-là, nous prenons également en ligne de compte. Et c'est pour préserver cet aspect des choses.
Monsieur le directeur, merci.
Je vous remercie.
C'était Lojan Loutete, directeur technique national intérimaire de l'INPP. Il revenait avec nous sur les 61 ans d'existence de cette institution publique dédiée à la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Un entretien mené par Jacques Moukonkole. C'est la fin de ce journal. Mise en onde, Didoné Nyangasa, coordination Jean-Gandou Kabongo, présentation Gisèle Cage. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis avec fidélité, attention. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. À très bientôt pour une nouvelle édition.